Seigneur d'abord, puis dans le partage avec vos frères et sœurs en Christ que vous apprenez à aimer et à estimer, sachant bien que nous avons besoin les uns des autres. En tout cas, moi personnellement, j'avais réellement besoin d'un de mes frères, et qu'il veuille bien ce matin me prêter un de ses instruments, puisque ma femme n'est pas encore d'accord que je me laisse pousser la barbe. Figurez-vous que dans mon voyage, mon petit rasoir s'étant un peu usé, ma femme l'avait enlevé, mais on a oublié de le remplacer dans ma trousse, et quand j'ai voulu me raser ce matin, je ne l'avais pas. Et alors, eh bien, il est dit, demandez, vous recevrez. Et j'ai trouvé un frère qui a bien voulu me prêter le sien. Oui, nous avons besoin les uns des autres, même dans le détail. Et ces détails matériels, le Seigneur s'en occupe aussi. Et on a occasion de rendre grâce. C'est ce que nous voulons faire maintenant, dans la plus grande simplicité. Te remercier parce que tu es un Dieu qui t'occupe de nous dans tout le détail de notre vie. C'est toi-même, Seigneur Jésus, qui a parlé des cheveux de notre tête, qui étaient tous comptés. Oh, combien nous devrions être confiants, puisque nous valons mieux que des passereaux et que pas un ne tombe en terre sans ta volonté. Que tu nous donnes aujourd'hui d'être complètement dépréoccupés de nous-mêmes et de pouvoir comprendre quel est le vrai problème de cette heure et de pouvoir en trouver la solution dans ton amour. Amen. Eh bien, mes amis, nous sommes dans cette matinée du 6 décembre 1986, penché sur ce thème que nous avons introduit hier soir, le vrai problème de l'heure, en nous plongeant tout d'abord dans cette première épître de Jean, dont vous venez de reconsidérer les deux premiers chapitres. Est-ce que vous avez été heureux dans votre lecture personnelle? Est-ce que vous avez éprouvé une communion avec vos frères et sœurs dans votre partage? Ou bien est-ce que vous avez maugréé intérieurement en disant « si seulement j'avais été mis dans un autre groupe ». Le Seigneur connaît nos pensées, hein, les plus secrets. Eh bien, j'espère que vous êtes heureux dans la situation dans laquelle vous vous êtes trouvé ce matin. Alors, hier soir, nous avons donc annoncé que pour cette dernière retraite, certaines personnes avaient été intrigués par notre thème, et cela depuis des mois, puisqu'il y a des mois que nous avons mis ce titre, le problème de l'heure, ou le vrai problème de l'heure. Et je vous disais hier qu'il aurait été intéressant de savoir ce qui vous a paru depuis que vous connaissez ce thème et que vous avez voulu participer à cette retraite, ce qui vous a paru être le vrai problème de l'heure. Est-ce que vous y avez pensé? Je suis persuadé que déjà maintenant, certaines de vos pensées se sont corrigées, ne serait-ce que par la lecture que nous avons été conduits à faire comme toile de fond de notre thème, la première épître de Jean. Peut-être que beaucoup pensaient, il va nous parler de l'Apocalypse. Il va nous parler du problème de l'évangélisation du monde. C'est ce qui préoccupe peut-être beaucoup de chrétiens et surtout des jeunes dans la foi, transmettre le message, quelle méthode nouvelle employer. Est-ce que c'est cela le problème de l'heure? Est-ce que c'est notre activité vers l'extérieur? Ou bien est-ce que l'on commence à comprendre que le vrai problème de l'heure nous concerne d'abord, nous, notre vie intérieure, qui devrait être peut-être toute différente pour que notre vie extérieure ne soit pas un effort de paraître ce qu'au fond on n'est pas du tout. Notre vie extérieure doit être simplement le reflet de notre vie intérieure. Et qu'est-ce que le monde voudrait voir aujourd'hui, à l'heure actuelle, chez ceux qui se réclament de ce nom de Jésus, qui est vraiment le nom au-dessus de tout nom? Qu'est-ce que le monde incrédule, qu'est-ce que les athées voudraient voir en ceux qui se disent chrétiens? Nous l'avons déjà souligné hier, ils voudraient que nous soyons plus chrétiens que nous ne le sommes. Ils ne nous reprochent pas d'être chrétiens, mais ce qu'ils voudraient, c'est voir en nous celui qui est à l'origine de ce qu'on appelle le christianisme. Le christianisme qui n'est pas un ensemble de dogmes auxquels on adhère, de formules théologiques, mais qui est une personne qui nous habite et qui vit en nous, qui règne en nous, et qui regarde par nos yeux, qui écoute par nos oreilles, qui aime par notre cœur, qui serre par nos mains, qui marche dans ce monde par nos pieds. Alors ce matin, pour vraiment comprendre notre thème, je vais avec vous m'arrêter sur les mots qui annoncent notre sujet, parce qu'il est très important de saisir le sens des mots. Et on commencera par la fin. Quel est le dernier mot de notre thème? L'heure, hein? Alors, en commençant par la fin, nous trouvons le mot « heure ». Et je pense que tous, vous avez saisi qu'il ne s'agit pas, bien entendu, de cet espace de temps égal à la 24e partie du jour. Hein. Une heure, c'est la 24e partie d'une journée. Mais que quand on emploie le mot « heure » ici, il est question d'un moment précis de la vie d'un individu ou d'une société. Ce mot désigne un instant, une époque, une étape particulièrement grave de notre propre histoire ou de l'histoire de l'humanité. C'est dans ce sens-là que nous employons le mot « heure ». Et sachant bien que notre seule source et la parole de Dieu, ce mot « heure » aura déjà orienté certains vers une réponse. Vous qui connaissez la Bible, où est-ce que nous trouvons le mot « heure » Je ne parle pas de toutes ces heures dont Jésus que Jésus mentionne, par exemple dans le chapitre 20 de l'évangile de Matthieu, les heures où le maître de la vigne embauche des ouvriers. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Il y a la première heure, il y a la troisième heure, il y a la sixième heure, il y a la neuvième heure, il y a la onzième heure. Ce sont donc des heures où le maître de la vigne, dans la parabole de Jésus, embauche des ouvriers. Mais il est question d'autres heures aussi dans l'Écriture. Et en particulier, puisque le thème, le vrai problème de l'heure, je pense que vous avez pensé à quel verset? Romains, chapitre 13 en particulier. Et quelques-uns peut-être se sont dit, bien, de quoi va-t-il nous parler, le vrai problème de l'heure? Dans le chapitre 13 des Romains, il est dit ceci, verset 10. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Verset 11. Cela importe d'autant plus, donc d'aimer son prochain comme soi-même, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de nous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Donc, ça pourrait être ça. Le problème de l'heure, c'est le réveil. C'est compliqué de se réveiller? Peut-être. On pourrait se faire réveiller. Si vous n'avez pas un réveil, vous demandez à quelqu'un de vous réveiller. Mais il y a donc une solution pour se réveiller. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme au plein jour, loin des excès, de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais on se dit, mais c'est pas possible qu'on demande ça à des chrétiens. Et pourquoi est-ce que demander à des chrétiens? Parce qu'il y a des chrétiens qui vivent dans ces choses. Qui vivent encore dans ces choses. C'est ça qui est tragique. Ils portent le nom de chrétiens et, au fond, ils ne marchent pas d'une façon honnête. Ils ne marchent pas comment? Plein jour. Or, qu'est-ce que vous avez lu dans l'Épître de Jean? Dieu est lumière. Et il n'y a en lui aucune ténèbres. Loin des excès. Et qu'est-ce que nous voyons dans ce monde? Un tas de gens qui font des excès. Dans un domaine ou dans un autre. Et nous sommes exhortés donc à nous éloigner de tous ces excès. De l'ivrognerie. On dira, je suis sobre. Il faudrait encore savoir. De la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Ça, hélas, des querelles, il y en a dans toutes les églises. Et puis des jalousies, il y en a dans toutes les familles. C'est quand même triste. Et on se dit souvent, famille chrétienne. Mais ce que nous avons à revêtir, revêtez-vous du Seigneur Jésus. Donc, on pourrait dire aussi que le problème de l'heure, c'est se revêtir du Seigneur Jésus. Se revêtir de Jésus-Christ. Que vraiment nous soyons cachés en lui. Alors, si nous sommes revêtus de Jésus-Christ, qu'est-ce que le monde verra? Jésus-Christ lui-même. Et non pas nous. Nous nous sommes trop montrés. Et souvent, on a vu quoi? Notre nudité. Nous nous croyons vêtus comme l'église de Laodicée. Et au fond, nous étions nus, et nous n'avons trompé personne. N'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Ce serait peut-être l'heure d'y penser. Or, combien de temps passons-nous pour
ces soins de notre chair. Voilà donc ce que certains ont pu penser. Est-ce qu'il va nous parler de cela? Oui, c'est vrai, c'est l'heure de nous réveiller en fin du sommeil. Maintenant, dans l'épître de Jean, vous avez trouvé le mot « heure » aussi, hein, dans le deuxième chapitre que vous avez revu ce matin. Qu'est-ce que vous avez pu lire, surtout dans les versions plus élaborées que celles que nous avons lues hier soir? Verset 18, « Petits enfants, c'est la dernière heure. » Et au fond, quand est-ce qu'elle a commencé la dernière heure? À la mort de Jésus. Depuis ce moment-là, nous sommes dans la dernière heure. Le monde a montré ce qu'il faisait quand Dieu le visitait en chair. Ce qu'il était capable de faire. S'il pouvait voir Dieu, alors que bien souvent ils ont demandé de voir Dieu, bien quand on l'a vu en cet homme en qui on ne pouvait reprocher aucun mal, aucun péché, qu'est-ce qu'on lui a fait? On lui a craché au visage, on l'a battu de verge, toute sa vie a été parsemée d'attentats, et je dirais même, depuis sa naissance, quand il n'était encore qu'un petit enfant, on attentait déjà à sa vie. Et puis ensuite, au début de son ministère, et dans sa propre ville, il y a, quand on va à Nazareth, une certaine montagne qu'on appelle la montagne de la précipitation. Ses propres concitoyens, lorsqu'il a prêché à Nazareth pour la première fois, qu'est-ce qu'ils ont voulu lui faire? Le précipiter au bas de la montagne. Vous savez, quand on tombe sans parachute au bas d'une montagne, eh bien, on sait ce qui arrive. Hein. Il aurait été brisé, mais ce n'était pas son heure. Alors le monde a finalement pu l'arrêter et on l'a crucifié. On l'a fait mourir. Lui qui n'avait fait qu'aimer. Alors, là a commencé pour le monde ce qui est appelé la dernière heure. C'est la dernière heure. Alors, si la dernière heure a commencé au rejet du Christ, nous sommes dans quelle partie de cette dernière heure, 2000 ans après la crucifixion de Jésus, dans les dernières minutes, ou peut-être, disons, dans les dernières secondes de la dernière heure? Alors vous avez peut-être pensé, bien, il va nous parler surtout de l'Apocalypse, puisque c'est la dernière heure, c'est peut-être connaître, au fond, le problème de l'heure, c'est connaître les événements qui vont venir, et ça vous aurait peut-être passionné. Bien non, je ne vais pas essayer de vous brosser le tableau prophétique des événements futurs. Je ne dis pas de ne pas lire le livre de l'Apocalypse, mais ce n'est pas ça qui est ma vision aujourd'hui. Pourtant, il y a un troisième texte où il est parlé d'une heure. C'est justement dans l'Apocalypse. Au chapitre 3, qu'est-ce que vous connaissez comme texte qui parle d'une heure? C'est dans l'Église de Philadelphie que nous lisons cette expression. Cette église qui a peu de force, qui a peu de puissance, mais qui a gardé sa parole, verset 8, et qui n'a pas renié son nom, Il lui dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Et puis, verset 10, parce que tu as gardé la parole de ma patience ou de la persévérance en moi, je te garderai aussi, non pas à l'heure, comme l'a traduit second, mais comme la version corrigée, la Colombe là, le dit, et d'autres versions aussi, qu'elles soient catholiques ou autres, je te garderai de l'heure. Corrigez dans vos versions si c'est à l'heure. Mais c'est littéralement de l'heure. Je te garderai de l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Donc, il y a une promesse qui est faite pour une église ou pour les croyants d'une église, mais qui garde la parole de la patience du Seigneur. Qu'est-ce que c'est la parole de la patience du Seigneur? Qu'est-ce qu'il est dit dans l'épître de Pierre, dans la deuxième épître de Pierre? Pourquoi le Seigneur n'est-il pas encore revenu? Parce qu'il a de la patience. Lui voudrait avoir son Église auprès de lui. Mais s'il n'est pas encore revenu, c'est parce qu'il patiente, parce qu'il voudrait que le plus grand nombre soit sauvé. Et alors, c'est pas parce qu'il n'est pas revenu que nous n'allons pas croire à son retour. Mais ceux qui croient à sa venue et qui vivent dans cette espérance vivante, qui ne disent pas comme les moqueurs où est la promesse de sa venue, depuis que le monde existe, toute chose demeure dans le même état, mais ceux qui continuent d'espérer en son retour, ceux qui croient que le Seigneur peut venir d'un jour à l'autre, et ceux qui l'attendent aujourd'hui, c'était le thème que l'on m'a demandé de traiter en Italie pendant les journées où je me trouvais à Turin. Le thème que j'avais pour cette mission de 8 jours à Turin, c'était « En attendant qu'il vienne ». Qu'est-ce que nous faisons en attendant que le Seigneur vienne? Car les premiers croyants dans l'église de Thessalonique, il est dit d'eux qu'ils s'étaient convertis à Dieu, qu'ils s'étaient détournés des idoles vers Dieu, pour se tourner vers Dieu, et pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils, Jésus qui nous délivre de quoi? De la colère à venir. Je te garderai de l'heure de l'épreuve. La colère vient sur le monde. Et il n'y a pas que les croyants qui se rendent compte que le monde mûrit pour le jugement, mais même des athées, des incrédules, s'attendent à une catastrophe quelconque. Le monde va vers la ruine. Et vous voyez les catastrophes se succéder les unes après les autres. Et pourtant, dans cet apocalypse, il y a une certitude. Je te garderai de l'heure de l'épreuve. Et quelle est cette heure de l'épreuve? Jésus, on a parlé dans une certaine prière que vous avez tous appris par cœur dans votre enfance, même si vous ne la récitez plus aujourd'hui. Je ne sais pas trop pourquoi vous ne la récitez plus. Je voudrais en tout cas qu'elle inspire vos prières, qu'elle soit le modèle de vos prières. Vos prières seraient donc très denses et très courtes. C'est quelle prière? Notre Père. On pourrait la réciter ensemble, hein? Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comment au ciel. Ça veut dire quelque chose, hein. Qu'est-ce qui va faire la volonté du Seigneur sur la terre? Qu'est-ce qui fait la volonté du Seigneur dans le ciel? Les anges, hein. Les serviteurs de Dieu. Et puis, la suite, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons ceux qui nous... C'est vrai que nous disons là? Est-ce qu'on pardonne? Pas toujours. Et c'est bien parce qu'on n'a pas pardonné que nous ne sommes pas exaucés. Hein. Parce qu'il est dit que si tu pries et que tu te rappelles que tu n'as pas pardonné à ton frère, ben, laisse ton offrande et va d'abord pardonner à ton frère. Mets-toi d'abord en règle avec ton frère, le problème de l'heure. Hein. Mets-toi en règle avec ton frère et puis alors le Seigneur pourra agréer ton offrande. Et c'est cela, bien souvent on nous dit, mais on n'est pas exaucé. Ben, il suffirait peut-être de se sonder notre cœur, mais si je ne suis pas exaucé, c'est peut-être parce qu'il y a un obstacle. En moi, je n'ai pas pardonné à telle personne. Eh bien, je veux vivre dans le pardon. Ne dites pas, ben, j'attends qu'elle vienne me faire des excuses. Et alors là, je lui pardonnerai. Mais ça, c'est très humble de dire ça. Est-ce que vous ne pensez pas que nous avons aussi une responsabilité dans ce petit conflit et que peut-être que si nous faisions les premiers pas, eh bien, ça amasserait sur la tête de l'autre des charbons ardents et qui l'amènerait aussi à avoir une autre pensée et une autre attitude à notre égard. C'est cela que nous devons bien comprendre. Alors, finissons notre prière. Aide-nous. Ne vis pas dans la tentation, c'est ça, l'heure de l'épreuve. C'est cette tentation dont Jésus parle, c'est cette tentation eschatologique, c'est-à-dire des derniers jours. Hein. Pas seulement ne nous induis pas dans la tentation quotidienne, n'est-ce pas, mais il y a une grande tentation qui vient sur la terre habiter tout entière. Et dans la prière, dans cette prière de Jésus, il est déjà demandé de nous garder de l'heure de cette tentation. Ne nous induis pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal, de cette colère qui va venir, pas seulement du mal actuel, du mal quotidien, mais de ce mal qui vient sur le monde tout entier. Parce que c'est le monde entier qui va connaître le grand jugement de Dieu. Et nous voudrions échapper à ce jour-là. Et nous en avons des moyens. Mais voilà, vous avez peut-être pu penser, en vous arrêtant sur le mot « heure », que nous allions parler de cela. Alors, continuons maintenant de nous arrêter sur les mots annonçant notre thème. Qu'est-ce que c'est un autre mot? Le problème. Un problème. Alors, il y a le mot « problème ». Et nous allons nous poser une question. Qu'est-ce que c'est qu'un problème? C'est une question à résoudre et qui prête à discussion dans une science. C'est ce que nous disent les dictionnaires. Mais dans le dictionnaire Littré, qui est un dictionnaire extrêmement valable, on trouve trois définitions à ce mot problème. On nous dit d'abord que un problème, ben, c'est un terme mathématique. Et un problème, c'est toute question où l'on indique le résultat qu'on veut obtenir et où l'on demande les moyens d'y parvenir. Ça donne déjà beaucoup de lumière. Hein. Toute question où l'on indique le résultat qu'on veut obtenir et où l'on demande les moyens d'y parvenir, ou bien l'on indique les moyens et l'on demande le résultat. Mais un problème ne doit pas rester un problème. Vous le comprenez bien. Il y a donc une solution en vue. Il y a donc un résultat. Puis il y a une deuxième explication au sujet de problème. Problème, c'est proposition douteuse qui peut recevoir plusieurs solutions. De sorte qu'il y a des problèmes qu'on appelle philosophiques, c'est-à-dire des problèmes qu'on étudie à la lumière de la raison humaine et qui concernent l'ensemble des recherches visant à saisir les causes premières, la réalité absolue et les fondements des valeurs humaines. Problèmes philosophiques. Il y a des problèmes moraux. Qu'est-ce que c'est que les problèmes moraux? Bien, ce sont les problèmes qui concernent les mœurs. Et il y en a des problèmes moraux aujourd'hui. Hein. Les choses qui concernent les mœurs, les habitudes et les règles de conduite admises et pratiquées dans une société. On pourrait parler des problèmes moraux. Puis il y a des problèmes qu'on appelle métaphysiques, c'est-à-dire qui dépassent l'ordre physique et qui ont pour objet la connaissance de l'être absolu, de l'être transcendant, donc la connaissance de Dieu. Et en réalité, je dirais qu'il existe une foule de problèmes, des problèmes qu'on appelle techniques, des problèmes politiques, des problèmes économiques, des problèmes financiers, des problèmes sociaux, des problèmes raciaux, des problèmes religieux, des problèmes psychologiques, puis des problèmes affectifs, pour ne pas vous parler aujourd'hui des problèmes de stationnement et des problèmes de circulation. Tout est problème maintenant, hein. C'est vrai. Il y a un tas de problèmes, un tas de difficultés. Alors, comme il y a tous ces problèmes, cela permet au dictionnaire de nous donner une troisième définition du mot problème. Un problème, eh bien, en général, c'est tout ce qui est difficile à expliquer ou à concevoir. Mais cependant, je reviens à la première définition et au problème mathématique qui concerne l'ensemble des sciences qui ont pour objet la quantité et l'ordre. C'est cela. Les problèmes mathématiques, bien, on concerne donc l'ensemble des sciences qui ont pour objet la quantité et l'ordre. Alors, je constate tout simplement qu'un problème, c'est une question à résoudre, pour simplifier tout cela. Un problème, c'est une question à résoudre. C'est une solution à trouver, c'est un résultat à obtenir. Vous êtes d'accord avec ça? C'est ça, n'est-ce pas? Une question à résoudre, une solution à trouver, un résultat à obtenir. Et un homme politique français du siècle dernier, qui s'appelait Joseph de Maistre, disait: il y a bien moins de difficultés à résoudre un problème qu'à le poser. Et je souligne ça, hein. Il y a bien moins de difficultés à résoudre un problème qu'à le poser. Et je trouve que c'est vrai. Puis Ernest Renan, qui est mort en 1892, dont j'ai vu la tombe à Tréguier en France, cet homme qui a commencé par être prêtre, et puis ensuite qui est devenu écrivain, historien, qui a écrit même une vie de Jésus, mais qui est tombé complètement dans le libéralisme et dans le rationalisme. Bien, lui disait, le grand problème du siècle, et de quel siècle parlait-il? Le 19e, hein? Le grand problème du siècle, ce n'est ni Dieu, ni la nature, c'est l'humanité. Autrement dit, c'est l'homme. Hein. Le grand problème, au fond, c'est qui? C'est nous. Et on ne devrait pas être un problème, on devrait être une solution pour les autres. Simplement, en nous regardant, en nous voyant vivre, on devrait dire, ils ont la solution. Comprenez-vous? Mais quand on entend des chrétiens qui ne font que se plaindre, ce n'est pas une solution. Ils sont pleins de problèmes. Tout est problème pour eux. Alors, ce n'est pas une solution. Et leur vie n'est pas un résultat très heureux. Tandis que je vois un homme comme l'apôtre Paul qui est en prison, qui ne se plaint pas même de ses rhumatismes, et qui peut dire, quand il a les mains liées, à tout un auditoire des grands de ce monde, il y a un roi, il y a une reine, il y a un gouverneur romain, je voudrais que vous soyez tous comme moi. C'est formidable ça. Je voudrais que vous soyez tous comme moi, hormis ces liens. Je ne vous souhaite pas d'être en prison, hein. Voilà ce qu'il dit. Mais moi, je voudrais que vous soyez tous comme moi. C'est un homme heureux. Parce qu'il a des circonstances extraordinairement belles? Non. Parce qu'il est habité par quelqu'un qui lui suffit. Parce que dans le Christ, nous dit l'Épître aux Colossiens, Dieu a voulu y habiter pleinement. Alors, quand on a le Christ, eh bien, on a aussi pleinement en nous le Père lui-même. Et on est aimé de l'amour du Père. Et si on est aimé de l'amour du Père, et si le Père lui-même est en nous, on aimera qui? Les enfants de ce Père. Hein? Ce même Père. On aimera tous ses enfants. On aura, puisqu'on est les enfants de ce Père, on aura de l'amour les uns pour les autres. Et c'est vers ce résultat que nous allons travailler. Alors en vérité, pour résoudre mes problèmes, il faut que j'en connaisse d'abord les données, l'énoncé, et la méthode à suivre pour arriver à une solution. Vous êtes d'accord, hein? Mais pour arriver à une solution d'un problème, il faut appliquer quoi? Des règles. C'est clair, ça. Il faut que ça vous devienne clair. Vous avez un problème. Mais il faut connaître les règles pour que vous arriviez à solutionner ce problème. Je prends un exemple très simple au sujet des mathématiques. Nous savons qu'il existe combien d'opérations fondamentales? 4, hein. Je rafraîchis votre mémoire. Mais enfin, vous savez quand même les 4 opérations fondamentales. Alors, la première, l'addition. La seconde, la soustraction. La troisième, la multiplication, puis la quatrième, la division. Donc on va essayer dans cette journée d'appliquer simplement ces règles. Qu'est-ce qu'on doit additionner pour résoudre notre problème? Qu'est-ce qu'on doit soustraire? Parce qu'il y a des soustractions peut-être à faire dans nos vies. Et puis, qu'est-ce qu'on doit multiplier? Et en fait, est-ce qu'on devrait pouvoir diviser? Vous allez dire, oh, mais ça alors? Et oui, il y a peut-être des divisions qui devraient être faites, et ça irait beaucoup mieux, mais se diviser dans la paix. Hein. Quand il y a 5000 personnes, vous croyez qu'il y a beaucoup de communion fraternelle? On nous dit aujourd'hui qu'il nous faut une grande église. Si on était 5000 personnes qui se réunissent dans le même lieu, hein, ça impressionnerait Montréal. Vous croyez? Il y a plus de 5000 personnes au stade olympique. Ça ne change pas Montréal. Mais vous me direz, oui, mais ce n'est pas des chrétiens. Enfin, il y a des chrétiens parmi eux. Mais, voyez-vous,
faisons bien attention. Mais Jésus, lui, quand il y avait 100 000 personnes devant lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il divisait. Oui, il divisait.
Comment ça?
Parce qu'il voulait les nourrir. Alors, pour les nourrir, qu'est-ce qu'il faisait? Il disait à ses disciples, rangez-les par groupe de 50 ou par groupe de 100. Et on a dit, souvent et avec raison, que dès qu'une communauté dépassait la centaine, il n'y avait plus la même communion. Mais nous, on voudrait toujours être très nombreux. Et si vous vouliez que tous les dons se manifestent, eh bien, il faut savoir aimer. Ah, mais on est tellement bien ensemble, et puis on s'aime. On s'aime. Pas encore moi. Mais, comprenez-le bien, c'est pas la grande église qui compte. Qu'est-ce que Jésus a dit? Ne crains pas, petit troupeau. Hein? Petit troupeau. Mais c'est pas un petit troupeau replié sur lui-même, mais qui s'édifie pour pouvoir édifier les autres. Hein? Et c'est pas parce qu'on est divisé en groupes de 100 ou de 50 qu'on n'a pas la même nourriture. Tout le monde a été nourri. Les 5 000 ont été nourris. Et personne n'a manqué de rien. Donc, on pourrait parler de division aussi, hein, pour résoudre certains de nos problèmes de l'heure. Alors, si nous connaissons les formules concernant les 4 opérations fondamentales, nous n'aurons pas de difficulté pour obtenir un résultat absolument sûr. Il en est de même, je dirais aussi pour les problèmes de grammaire. Je viens de prendre des problèmes de mathématiques. Et 4 opérations fondamentales. Mais pour les problèmes de grammaire, qu'est-ce qu'il faut connaître et appliquer pour écrire une lettre sans faute? Il faut connaître certaines règles de syntaxe. Et de vocabulaire aussi, pour écrire une lettre sans faute. Mais il y a donc, les problèmes de grammaire ont leur solution dans les règles qu'on apprend à connaître. Et c'est pourquoi j'ai eu vraiment à cœur, hier, que vous vous plongiez d'abord dans les Écritures, dans cet épître de Jean, en particulier pour que vous puissiez comprendre notre sujet. Alors, après avoir rafraîchi votre mémoire sur ce qu'est un problème, nous pouvons maintenant aborder le troisième mot de notre thème. Qu'est-ce que c'est? Vrai. Hein? Le mot vrai. Et qu'est-ce que ce mot veut dire? Quelque chose de vrai, c'est quelque chose d'authentique. C'est quelque chose de véritable. C'est un mot qui est en opposition avec quoi? Avec faux, avec inexact, avec imaginaire. Et alors, ça nous donne quoi, ça? Quand je dis le vrai problème de l'heure, qu'est-ce que je suppose? Qu'il y a des faux problèmes, des questions que nous ne devrions pas nous poser, qui sont inutiles, qui sont vaines, qui ne nous concernent pas. Or, il y a un tas de gens qui sont bourrés de faux problèmes et qui s'occupent de faux problèmes. Et ils perdent ainsi leur temps, elles arrivent à la fin de leur vie et ils n'ont pas eu la réponse à ce qui aurait été essentiel pour eux. Alors, le vrai problème de l'heure concerne donc ce qui est essentiel que nous sachions aujourd'hui. Donc, le vrai problème de l'heure concerne ce qui est essentiel que nous sachions aujourd'hui avec certitude.
pour notre vie personnelle, pour notre vie familiale, pour notre vie sociale, et je dirais aussi ecclésiale, pour notre vie spirituelle, aussi bien que pour notre vie matérielle. Parce que nous avons un Dieu qui s'occupe de l'homme tout entier, de l'esprit, de l'âme et du corps. Alors, le vrai problème de l'heure, c'est de connaître la vérité. Et qu'est-ce que c'est que la vérité? Je donnerai cette définition très simple. La vérité, c'est la pensée de Dieu à l'égard de toute chose. Qu'est-ce que la vérité? La vérité, c'est la pensée de Dieu à l'égard de toute chose. Vous me direz, mais comment est-ce que nous pouvons connaître la pensée de Dieu à l'égard de toute chose? Eh bien, cette vérité, je dis qu'elle est à notre portée, car vous l'avez lu dans votre épître de Jean, cette vérité, elle a été manifestée. Elle a été manifestée dans ce monde. Il y a près de 2000 ans, cette vérité de Dieu, à l'égard de toute chose, a été manifestée dans une personne, la personne de Jésus-Christ, qui est une parole vivante, la vivante parole de Dieu, c'est le Christ. Et cette parole vivante de Dieu, elle nous est révélée dans un écrit qu'on appelle la Bible, qui est la parole écrite. Si Jésus est la parole vivante, la parole écrite du vrai Dieu, c'est la Bible, qui est inspirée par qui? Par des hommes d'un autre temps et d'un autre âge, mais par le Saint-Esprit, qui est une personne, qui est une réalité. Et cette parole, elle ne peut être comprise que par cet Esprit qui répand l'amour de Dieu ou dans nos cœurs. Hein. L'amour de Dieu, il est dit qu'il est répandu dans nos cœurs par quoi? Par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit répand l'amour de Dieu dans nos cœurs, et c'est quand on est habité par cet amour qu'on a la vraie compréhension des choses et qu'on peut solutionner les problèmes qui se posent pour nous. Et cet Esprit, nous le recevons dès le jour où nous acceptons son témoignage, nous concernant personnellement et concernant la personne de Christ. Et quel est le témoignage que le Saint-Esprit rend de nous d'abord? Quelle est la conviction qu'il nous donne, le Saint-Esprit, quand il est à l'œuvre dans une âme? Il la convainc de quoi? De péché. Et c'est ça. Est-ce que nous avons été convaincus de péché? Est-ce que vous admettez que vous êtes un pécheur? Il ne peut pas un petit pécheur, hein. Mais même un grand pécheur. Au fond, est-ce que nous n'avons pas tous été un peu des fils prodigues pendant longtemps? Vous avez dit, hier, j'ai entendu, vous étiez au Seigneur depuis tant d'années. Avant, à qui est-ce que vous étiez? Hein? Vous dites, je suis au Seigneur depuis tant d'années. Mais avant, alors, vous étiez à qui? À Satan, vous appartenez au monde, disons. Hein? Je ne dis pas que vous appartenez à une église. Vous appartenez au monde tout en étant dans une église, quelle qu'elle soit. Hein. Parce que moi aussi, je suis né dans une église. Mais j'ai aussi dû me convertir au Seigneur. Même si j'avais été gardé de bien des choses, il y a eu un moment où j'ai rencontré d'une façon personnelle le Seigneur. Je connaissais toutes les vérités évangéliques, mais c'était des disques. Hein? On me disait, est-ce que tu reconnais que tu es un pécheur? Bien sûr, tout le monde l'était. Hein? Et puis, est-ce que tu reconnais que Jésus-Christ est ton sauveur? On nous a toujours dit ça. Bien sûr, Jésus était mon sauveur aussi. Ce que je croyais, mais pourquoi je ne le croirais pas? Hein? Pourquoi je ne le croirais pas? Puisqu'on me l'a dit, on me l'a enseigné dès mon enfance. Oui, mais ça ne changeait pas ma vie. Hein? D'admettre que j'étais un pécheur. Je n'étais pas très convaincu de péché parce que il me semblait que je n'avais pas fait des choses trop graves. que Jésus est mon sauveur, mais de quoi est-ce qu'il m'avait sauvé? Vous savez, il faut tout le travail de Dieu pour nous amener à être convaincus de péché dans le sens qu'on est perdu. Bien, ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qu'il fait encore, le Saint-Esprit, après nous avoir convaincus de péché? Il nous convainc de justice. Il détourne nos yeux de nous-mêmes et il nous montre quelqu'un d'autre. Qui est le seul juste? Et qui est celui qui a manifesté la justice de Dieu? Puisqu'aucun de nous n'a demandé de naître. Et c'est là qu'on voit combien Dieu est juste. Puisque personne de nous n'a demandé de naître pécheur, hein, on n'en peut rien. Eh bien, Dieu est tellement juste qu'il a envoyé son Fils unique. Et il est venu lui-même dans son Fils unique pour nous sauver. Il a pris lui-même ce que j'appelle la responsabilité du péché, pour le réparer, lui-même, pour réparer nos fautes. Et il s'est donné pour nous. Alors, le Saint-Esprit, l'œuvre du Saint-Esprit nous convainc que en Jésus-Christ, tu peux être sauvé. Qu'en Jésus-Christ, ton salut, il est total, que ton salut, il est parfait, que ton salut, tu ne peux pas le perdre. Comprenez-vous? Parce qu'alors, Jésus serait un demi-sauveur. Ce serait pas vraiment le sauveur. S'il ne nous sauvait pas entièrement, et l'Écriture, et si vous la lisez, vous aurez des convictions là-dessus. Est-ce qu'on peut perdre son salut? On peut s'illusionner sur son salut. Mais si on a le salut, on ne peut pas le perdre. C'est pas une émotion, le salut. On a pris une décision seulement. Ce qui compte, et j'aurai l'occasion de vous en parler ce soir, Dieu voulant, si le Seigneur me dirige de cette manière, ce qui compte, c'est plus de savoir que c'est lui qui nous a choisis plutôt que nous. Et c'est tellement beau quand on peut dire, maintenant je sais que ce n'est pas moi qui me suis seulement décidé pour lui, mais que c'est lui qui m'a choisi. Et que j'étais prédestiné quand? Dès avant la fondation du monde. C'est quelque chose de fantastique. Et que l'œuvre qu'il a commencée en notre vie, par cette conviction que nous donne le Saint-Esprit, il va la continuer. Il va la poursuivre pour qu'un jour, on puisse être présenté devant Dieu étant irrépréhensible, irréprochable. Reçu par le Père comme il a reçu qui? Son propre Fils. Vous trouvez pas que c'est fantastique? Vous êtes prédestiné à être semblable à quelle image? À l'image de son Fils. C'est cela qui doit vous habiter. C'est cette certitude qui doit s'emparer de vos cœurs. Au lieu de regarder toujours à votre misère. Mais c'est vrai que vous êtes misérable. C'est vrai. Mais c'est vrai que je suis misérable. Mais pour un misérable, Dieu a fait miséricorde. Il n'y a que les misérables qui connaissent la vraie miséricorde. Parce que Dieu résiste à qui? Aux orgueilleux. Alors, ne vous lamentez plus parce que vous êtes misérable. Mais reconnaissez que pour ces misérables, Dieu a fait miséricorde. Et occupez-vous non plus de vos misères, mais de la miséricorde de Dieu et de toutes les grâces qu'il vous donne. Alors vous ferez des additions, grâce sur grâce. Hein. Et quand vous additionnez, c'est merveilleux. Et vous pourrez faire aussi des multiplications. Et tout ce que vous avez à souffrir, c'est vos misères. Et c'est ça ce côté. N'en parlez plus, jugez-les, et puis vivez de sa grâce et de sa miséricorde. Contemplez un peu votre visage dans la lumière où Dieu la voit. Et quelle est cette lumière? C'est la lumière de Jésus. Le Père vous voit dans les perfections de qui? de son fils. Alors occupez-vous des perfections de son fils et cessez de vous lamenter sur vos misères, parce que vous vous lamenterez jusqu'à la mort. Jusque sur votre lit de mort, vous serez misérable. Mais ne vous occupez plus de votre misère, de ce que vous éprouvez, de ce que vous ressentez. Occupez-vous de ce que dit la parole. C'est cela que vous devez croire. C'est pas votre pauvre expérience et qui est valable. Qu'est-ce qui est valable? C'est ce que dit la parole. Vous le croyez. Tu as dit cela, je le crois. Je ne regarde plus à ce que je suis, je regarde à ce que tu es. C'est cela que fait le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, eh bien, il prend de ce qui est à Christ pour nous l'annoncer. Et c'est toujours ce que fait le Saint-Esprit. Et quelqu'un a dit une chose que j'aime beaucoup. Il dit, sans le Saint-Esprit, Dieu est loin. C'est vrai ou c'est faux? Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, Dieu est loin. Vous croyez en Dieu, mais il est très loin, hein, au fond du ciel. Et sans le Saint-Esprit, le Christ, il reste dans le passé. Hein. C'est un homme qui a vécu, ou c'est peut-être le Fils de Dieu, vous le croyez, mais il a vécu il y a bientôt 2000 ans. Sans le Saint-Esprit, le Christ reste dans le passé. Sans le Saint-Esprit, l'Évangile reste une lettre morte. Vous connaissez l'Évangile, hein? Vous connaissez, vous avez lu les Évangiles? Oui, j'ai lu les Évangiles. Mais les Évangiles restent une lettre morte sans le Saint-Esprit. Et l'Église, sans le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'elle est? Une organisation. C'est simplement une organisation, c'est plus un organisme vivant. L'Église, sans le Saint-Esprit, quel que soit son nom, c'est une organisation, c'est un club. Vous connaissez le club? Votre club? Puis, sans le Saint-Esprit, l'autorité, c'est une domination. Sans le Saint-Esprit, l'autorité, c'est une domination. Et pourtant, il en faut une autorité. Hein. Mais s'il n'y a pas le Saint-Esprit, l'autorité que vous avez dans votre Église, c'est une domination. Alors que, avec le Saint-Esprit, qu'est-ce que c'est l'autorité? C'est un service. Qu'est-ce qui avait autorité? Toute autorité m'a été donnée. C'était qui? Jésus. Et qu'est-ce qu'il a fait la nuit où il fut livré? Il a lavé les pieds. Vous m'appelez maître et seigneur et vous dites bien car je suis, hein. Mais je vous ai donné un exemple. Celui qui avait autorité a servi. Celui qui est vraiment en autorité, c'est un serviteur. Mais il n'y a que le Saint-Esprit qui peut faire ça. Donc, sans le Saint-Esprit, l'autorité est une domination. Sans le Saint-Esprit, la mission ou l'évangélisation, ce n'est qu'une propagande. C'est vrai, hein? On fait de la propagande religieuse. Et sans le Saint-Esprit, notre culte, ben qu'est-ce que c'est? C'est une évocation. Et vous savez ce que c'est qu'une évocation? C'est l'action de rappeler une chose oubliée. Alors oui, on a des offices pour rappeler une chose oubliée. Le culte est une évocation, c'est pas une adoration. Et puis, sans le Saint-Esprit, l'agir chrétien, c'est une morale d'esclave. On doit faire des choses. Et on est esclave. Mais avec le Saint-Esprit alors, on peut dire que le cosmos, c'est-à-dire le monde entier, la création, est soulevé et gémit dans l'enfantement du royaume, parce qu'il est dit que toute la création gémit, hein, mais par le Saint-Esprit. La création aussi soupire. Après quoi? Après la manifestation des fils de Dieu, après l'avènement du Christ, après le royaume. Et avec le Saint-Esprit, eh bien, le Christ ressuscité, il est présent. L'Évangile avec le Saint-Esprit, elle est une puissance de vie. L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Mais l'évangile dans le Saint-Esprit. Et l'autorité, comme nous le disions, devient un service libérateur. On n'est pas écrasé par l'autorité, mais on est servi par l'autorité. Et la mission devient vraiment une Pentecôte. Et la liturgie, qui est au fond l'ordre de nos cérémonies, devient vraiment un mémorial, une anticipation de ce que nous aurons dans la gloire. Et alors, notre agir humain, il est déjà glorifié. Alors, le Saint-Esprit a pour but donc de nous ramener au Christ et de nous rappeler, je disais, ce qui est essentiel. Alors, dans cette retraite, qu'est-ce qui sera essentiel pour nous? Il ne s'agit pas pour nous de savoir à quelle heure nous allons mourir. C'est pas ça le problème. Le problème de l'heure, c'est pas de savoir à quelle heure nous allons mourir. Nous savons tous que si le Seigneur ne vient pas, nous allons mourir. C'est pas ça le problème. Pour certains, c'est ça un problème. L'heure de la mort. Un chrétien, ça ne le préoccupe pas. C'est pas un problème. Si c'est pas non plus notre problème, à quelle heure aura lieu la parousie, c'est-à-dire l'avenue du Seigneur, son second avènement, il y en a beaucoup qui voudraient savoir le jour et l'heure. Notre problème, ce n'est pas même ce qui va nous arriver demain. C'est ça votre problème? Votre angoisse, qu'est-ce qui va nous arriver demain? Alors vous n'êtes pas évangélique. Parce que quelqu'un qui est évangélique, il se souvient de quel verset? À chaque jour suffit sa peine. Demain sera en souci de lui-même. Et puis, notre problème, c'est pas de comprendre ou de connaître les voies et les pensées de Dieu à notre égard. Pour quelle raison? C'est pas notre problème. C'est le problème du Seigneur. Il est dit que ses pensées ne sont pas nos pensées alors. Que ses voies ne sont pas nos voix. Qu'on voudrait absolument comprendre et connaître. J'ai pas besoin de comprendre. Il y a des pourquoi, oui, mais les parce que, on les saura là-haut. En attendant, je fais confiance à mon Père. Qui dit une chose, elle arrive si Dieu ne l'a pas commandée. Et vous le savez bien que toute chose travaille au bien de ceux qui aiment Dieu. Il n'y a rien qui est contre nous, au fond. Alors, c'est ça que nous devons bien saisir. Donc, toutes ces questions que je viens de dire au sujet de l'heure, tout cela sont des faux problèmes. Car l'homme ne connaît pas son temps. Il ignore le jour de sa mort. Genèse 27, verset 2. Hein. C'est Isaac qui dit, je ne sais pas le jour de ma mort. Il y a des choses où nous devons avouer notre ignorance. Et dans l'Ecclésiaste, il est dit que personne n'a le pouvoir sur le jour de sa mort, sur l'heure de sa mort. De même, selon le Christ lui-même, l'homme ignore totalement le jour et l'heure de la seconde venue du Seigneur. Pourtant, tous les credos de toutes les églises, et je voudrais bien souligner ceci, les credos de toutes les églises, que ce soit l'église romaine, que ce soit l'église orthodoxe, que ce soit l'église réformée ou les églises protestantes, luthériennes ou autres, l'église anglicane, dans tous ces credos d'église, on proclame que Jésus doit revenir. C'est vrai ou c'est faux? Vous l'avez appris votre catéchisme autrefois, hein? Vous l'avez récité le credo quand même. Qu'est-ce que vous disiez? Il reviendra pour juger les vivants et les morts. Donc, dans tous les catéchismes, dans tous les credos d'église dites chrétiennes, il y a cette vérité que le Seigneur doit revenir. Et si vous prenez un dictionnaire, vous voyez parousie, eh bien parousie, second avènement du Jésus-Christ, de Jésus-Christ. Donc c'est bien lui qui doit revenir. On est d'accord là-dessus. Mais où l'on vit souvent dans les ténèbres, dans l'ignorance, c'est au sujet de comment le Seigneur va-t-il revenir, hein? Comment est-ce que ces choses vont se passer? Et puis, quand, si nous ne savons ni le jour ni l'heure, on pourrait au moins peut-être connaître un peu l'époque, le temps de son retour. Pour quelle raison? Parce que Jésus a dit que quand il reviendra, il en sera dans le monde comme au jour de Noé. Et qu'est-ce qu'il y avait au jour de Noé? On mangeait, on buvait, c'était la société de consommation, hein. On achetait, on vendait, on donnait en mariage, la vie continuait. Mais qu'est-ce qu'il y avait en même temps? La corruption et la violence ravageaient la terre. La science était à son sommet. Après que les filles de Dieu, les fils des hommes, les fils de Dieu aient épousé les filles des hommes, hein, tout ce mélange, ça avait donné des géants, une race de géants. Est-ce qu'on n'est pas un peu dans une race de géants, au temps de l'informatique et de tout ce que vous voulez, où l'on s'arrache de la loi de la pesanteur pour arriver dans les sphères les plus élevées, mais où on ne s'arrache pas de la pesanteur, hein, on flotte. Hein, c'est tout ce que les hommes arrivent à faire. Hein. Et ils s'arrachent de la terre, mais ils restent là, à flotter dans l'air. Ils n'ont pas connu l'attraction du ciel, l'attraction de la maison du Père, parce que pour ça, ils font un autre corps. Alors, notre problème, c'est pas de savoir le jour et l'heure de sa venue, mais c'est de veiller. Et de savoir qu'il peut venir le matin, à midi ou le soir. Tout le reste, ce sont des faux problèmes. Le jour, l'heure, ce ne sera pas le même jour suivant l'habitation où nous demeurons. Si nous demeurons de l'autre côté de la terre, ce sera un autre jour, de sorte que nous ne pouvons pas dire le jour et on ne peut pas dire l'heure. Parce que pour les uns, ce sera un autre jour que le nôtre. Mais pourtant, ce sera le même moment, comprenez-vous? Mais ce ne sera pas le même jour et ce ne sera pas la même heure, puisque c'est le décalage horaire, hein. C'est stupide de penser. On nous dit, est-ce que vous croyez que le Seigneur reviendra le soir? Est-ce que vous croyez qu'il viendra la nuit? Pour les uns, ce sera la nuit. Pour les autres, ce sera le jour. Le Seigneur n'est pas stupide quand il écrit dans sa parole. Il a écrit pour tous les hommes. Il a écrit pour le monde entier. Parce que tous ceux qui ont voulu mettre une date, ben, ils se sont trompés et ils se trompent. Et l'écriture et l'expérience quotidienne nous prouvent aussi que nous ignorons ce qui nous arrivera demain. Alors vivons pleinement notre aujourd'hui, ce que j'appelle l'aujourd'hui de Dieu. C'est là le vrai problème. Il est question pour nous de vivre notre aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'est le mot du Saint-Esprit et nous devons vivre pleinement notre aujourd'hui, l'aujourd'hui de Dieu. Parce que concernant les pensées et les voies de Dieu, eh bien, nous voulons comprendre une fois pour toutes que ce ne sont pas nos pensées, ce ne sont pas nos voies. Puisqu'il est Dieu, il peut agir comme bon lui semble. Mais ce dont je suis absolument persuadé, c'est que Dieu ne se trompe pas. Et qu'il veut toujours mon bien. Si parce que vous êtes dans la souffrance, si parce que vous traversez une épreuve, vous avez cette pensée que Dieu est impuissant, ou bien qu'il y a une injustice en Dieu, ce n'est pas à Dieu que vous pensez. C'est à une caricature de Dieu. Mais quand on connaît Dieu, on est d'accord avec toutes ses dispensations. On lui fait éperdument confiance. Et je citerai ce verset que j'aime beaucoup et que Paul cite, « En profondeur de la richesse, de la sagesse, de la science de Dieu, tous ses jugements sont infondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller, qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour. C'est de lui et par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. C'est la fin du chapitre 11 de l'Épître aux Romains. Alors, le vrai problème de l'heure, voyez-vous, c'est la méconnaissance de laquelle nous sommes du conseil divin, de l'intention suprême de Dieu à l'égard de chacune de nos vies. Est-ce que vous savez ce que Dieu veut pour vous? Et c'est ça que vous devez savoir. Votre problème, le problème de l'heure, c'est que vous prenez conscience de ce que Dieu veut pour vous. En ce jour, qu'est-ce que Dieu veut pour vous? Qu'est-ce que Dieu veut à l'égard de chacune de nos vies? Tout le reste, ce sont des faux problèmes. Et cette ignorance coupable, je dirais qu'elle est à l'origine de tous nos faux pas. Dans notre vie personnelle, dans notre vie familiale, dans notre vie sociale, puis je dirais aussi dans notre vie ecclésiale. Est-ce que vous voulez qu'on s'arrête ici pour que votre tête ne saute pas? Et on continuera cet après-midi pour que vous ayez un moment encore avant votre dîner. C'est à 1h, c'est à 12h10. Hein? Bien, nous reprendrons cet après-midi, si vous voulez, pour que vous ne m'accusiez pas d'être un assassin. Est-ce que vous êtes intéressé? Voulez-vous qu'on continue? Eh bien, vous allez prier pour que le Seigneur me dirige. Hein? Parce que j'ai besoin de vous. Pour que ce soit votre retraite. La retraite qu'on fait ensemble avec le Seigneur pour qu'on arrive à poser les vrais problèmes, hein? L'énoncé des vrais problèmes, puis qu'on ait la solution. Est le résultat. Mais un résultat qui sera valable dans les jours qui viennent. Il faut que ces retraites puissent vous aider dans la vie quotidienne, hors de cette maison que nous aimons, qui nous permet de nous réunir, d'étudier. C'est quand même formidable. Quand je me promenais dans ces corridors-là, cherchant peut-être une brebis égarée, je me disais, quand même, on a une bénédiction extraordinaire. Toutes ces salles, vous avez ces petits groupes, n'est-ce pas, qui vous permettent de travailler, de partager, parce que si on reste tous ensemble, on ne s'entend pas, hein, cette voix, mais chacun, on est autour d'une table. Et le Seigneur, il travaillait avec des petits groupes. Oui, il a eu des multitudes, hein, qu'il a nourri, ça c'est une chose. Mais ensuite, vous le voyez, quand il donne vraiment son enseignement, eh bien, ça ne dépassait pas à 12. Mais ça, c'était des petits groupes. Et il les a façonnés, il les a formés. Alors, je voudrais que vous soyez vraiment heureux, que vous soyez détendus, et que même si vous entendez des choses qui vous heurtent, qui ne sont pas selon vos habitudes, eh bien, ne pensez pas que tout de suite que c'est une hérésie. Hein? Dites-vous, bien, je vais quand même réfléchir. Et puis, pensez bien encore à ce que nous avons lu ce matin, parce que ces versets ont pour moi, du reste il me les a donnés, j'avais prié hier soir, j'ai dit donne-moi une parole pour demain matin, parce que je ne sais jamais ce que je vais dire à l'avance, parce qu'il faut que ce soit quelque chose de frais. Et C'était cette parole que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises.
Alors, j'espère que vous avez déjà bien compris que partout où l'on évoque le nom du Seigneur, eh bien, ces groupes peuvent être appelés églises. Alors, il y a une église qui s'appelle l'église romaine. Et Dieu a un message pour l'église romaine, pour ceux qui sont dans l'église romaine. Et j'espère bien que quand vous rencontrez quelqu'un, vous ne parlez pas du catholicisme. Ne parlez pas de catholicisme, parlez du Seigneur. Quand vous êtes avec un catholique, parlez du Seigneur. Parlez pas de votre groupe à vous. D'abord, qu'est-ce que c'est votre groupe à vous? On vous dira toujours, et nous, il y a bien plus longtemps qu'on existe. Parce que vous, au fond, vous existez depuis quand? C'est des groupes de ce siècle, certaines communautés, où si même on se déclare protestant, moi je suis protestant. Oui, mais nous, on est avant vous. N'est-ce pas? Alors, ce n'est pas nécessaire de dire ce que l'on est d'abord. Parlez de ce que le Seigneur est pour vous. Et alors vous aurez tout de suite un contact. Et vous savez, il y a une étincelle. On trouve la même longueur d'onde pour parler du Seigneur. Avec ceux qui sont branchés sur le ciel. Et vous savez, il y en a, hein. Partout qui sont branchés sur le ciel. Et tous ceux que je connais qui sont branchés sur le ciel et qui vivent sur la terre et qui ont un témoignage sur la terre, ce sont des gens qui souffrent dans leur propre milieu. Ils ont des souffrances, mais ils n'en parlent pas comme ça. Ils parlent de la joie qu'ils ont dans le Seigneur, de ce qu'ils ont trouvé dans le Seigneur. Et quand on les entend, on est réconforté. On est édifié. Puis quand ils commencent à avoir confiance en nous, ben, ils s'ouvrent aussi. Peut-être sur leur peine. Et tout à coup, on se dit, eh bien, ils sont comme nous. Hein? Ils ont aussi des peines. Et alors, on a une communion. Cette communion du corps de Christ. Si un membre souffre, tous les autres souffrent. Vous voyez les dimensions que ça prend. C'est pas seulement dans notre groupe qu'on veut réaliser cela, mais c'est dans le monde entier, avec tous les croyants qui, au travers de tous les âges, ont souffert. Et il y en a eu. Il y a eu des heures sombres dans l'histoire de l'Église, hein. Mais dans toutes les heures les plus sombres de l'Église, il y a eu des flambeaux. Il y a eu un témoignage, il y a eu des témoins. Des gens qui ont souffert. Regardez maintenant, les gens qui sont derrière le rideau de fer, il y a parmi eux des croyants qui sont de l'église catholique, d'une église luthérienne, d'une église orthodoxe. Et pourquoi souffrent-ils? À cause de qui souffrent-ils? Parce qu'ils sont orthodoxes, ou parce qu'ils sont catholiques, ou parce qu'ils sont luthériens? Et ils souffrent parce qu'ils croient à qui? À Jésus-Christ. Hein? Il n'y a plus que cela qui compte pour eux. Et je viens de lire dans un journal que je reçois de France hier qu'il y a un prêtre orthodoxe qui est en Russie depuis 9 ans dans une prison et qui a jeûné. Non pas pour être libéré, il a jeûné je ne sais plus combien de jours, mais personne n'en parle. Hein. Comme quand il y en a un qui jeûne là, à Ottawa, à la Chambre des députés, tout le monde en parle, hein, dans les journaux, puis on le voit bien assis. Eh bien lui, il a été battu et tout. Pour quelle raison? Tout ce qu'il demande, vous savez quoi? C'est qu'on lui donne sa Bible, une Bible, et on ne veut pas la lui donner. C'est ça qu'il demande. Vous croyez que c'est pour faire du papier de cigarette qu'il demande la Bible? Non. Il y a des gens, alors,
souvenez-vous de cela quand on est vraiment dans l'épreuve. Et j'ai souvent pensé à ça. Si le Seigneur revenait et qu'il nous, que nous soyons mis en demeure, nous autres, tous, hein, de prendre position pour Jésus-Christ, parce que c'est bien cela qu'on a lu ce matin, hein, qui disent les hommes que je suis. Eh bien, si vous reniez Jésus-Christ, vous avez la vie sauve. Mais si vous confessez Jésus-Christ, Fils éternel du Père, on va vous parquer là, et puis on va faire venir les mitraillettes. Qu'est-ce qu'on verrait? Vous savez, on verrait les gens qui ont vraiment une conviction essentielle au sujet du Christ. Et il y en a dans toutes les églises. Qui seraient parqués là, mais il y en a aussi dans toutes les églises qui resteraient dans leur petit milieu pour avoir la vie sauve. Alors l'unité, elle serait réalisée par la souffrance, hein, parce qu'il n'y aurait plus qu'une chose essentielle. Et vous avez vu que l'esprit de l'Antichrist, qu'est-ce qu'il nie? Vous l'avez lu? Qu'est-ce qu'il nie? Que Jésus est le Christ, le Fils unique de Dieu. Et celui qui n'a pas le Fils, il est dit qu'il n'a pas le Père. Alors ça vous donne une autre vue sur les autres églises. Il y a des églises qui croient encore au Père, et qui parlent du Père, et qui croient encore au Fils. Maintenant, la foi personnelle, c'est une autre affaire. Ça doit être individuel. Et c'est pourquoi il est dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et si vous relisez l'histoire des sept églises, vous voyez que dans chacune de ces églises, il y a un résidu, un reste, un groupe. Il y a un jugement qui vient sur les églises, mais il y a un groupe. Et l'Église, eh bien, Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Alors ayons justement dans nos cœurs cette dimension de l'amour de Dieu qui voit tous les hommes et qui connaît ce qui est dans chaque cœur. Dieu notre Père, nous voulons te rendre grâce et te bénir de nous avoir permis d'arriver à ce point. Et nous voulons te demander que tu façonnes nos cœurs, que tu sois vraiment le potier et que nous soyons l'argile et que nous acceptions peut-être que tu brises cet ouvrage pour le refaire selon tes désirs, pour que nous puissions mieux t'aimer, mieux te servir et être une vie plus à ta gloire auprès des autres hommes que nous côtoyons. Et peut-être d'abord dans nos foyers, dans nos familles, dans notre travail, dans nos relations sociales et dans nos activités au travers de ce monde. Garde-nous, édifie-nous, console-nous, bénis-nous en Jésus. Pour que nous soyons en paix.